Le journal de la mi-journée.
Bonjour, des irrégularités constatées dans l'attribution des mandats à l'État de Genève. La Cour des comptes le dit dans un rapport sans concession, mais fait plutôt inhabituel. La plupart de ces recommandations sont refusées par le Conseil d'État qui s'en explique en ce moment. C'était un premier gros stress test pour les CFF et leur nouvel horaire. Le retour des pendulaires ce matin, vous l'avez peut-être vécu. Il semble s'être bien passé, même si, on le verra, il a obligé certains à changer leurs habitudes. C'est un retour difficile, celui des exilés syriens qui retrouvent leur pays. Ils étaient pleins d'espoir, ils retrouvent des ruines. Des témoignages difficiles recueillis par nos envoyés spéciaux sur place. Dans ce 12-30, on évoquera également la douleur de l'île de Mayotte après le passage d'un cyclone meurtrier. On coupera aussi la FM, la SSR l'arrête dans quelques jours. Il faut dire que nos habitudes d'écoute ont bien évolué. Et puis on tentera un pronostic avec un de nos consultants football. Les clubs romands ont-ils des chances de titre? À mi-parcours, ils sont en embuscade. Notre invité est pianiste, compositeur, mais aussi performeur. Vous l'avez peut-être vu avec son piano vertical dans les airs lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris. Alain Roche sort un nouvel album et lance une nouvelle tournée. Il nous rejoint dans une vingtaine de minutes. Météo plutôt ensoleillé aujourd'hui, retour du Stratus demain. Bienvenue dans ce 12-30, on est ensemble pour la prochaine demi-heure. C'est un rapport sans concession qui a été publié ce matin par la Cour des comptes genevoise. Elle s'est penchée sur les mandats externes sollicités par l'État de Genève, par exemple pour développer un outil informatique, pour livrer des repas ou encore pour réaliser une étude d'urbanisme. Des mandats qui ne respectent pas toujours le cadre légal selon la Cour. Julien Schiffel, vous avez parcouru ce rapport. Il pointe de nombreuses irrégularités dans tous les départements.
Il y a une volonté de s'affranchir des règles, a répété ce matin l'organe d'audit du canton de Genève. C'est un rapport de plus, hein, il faut le dire, sur ce sujet brûlant à Genève qui depuis plusieurs mois vit au rythme des révélations de soupçons de copinage au sein de l'État. Mais dans ce rapport donc, la Cour des comptes a documenté plusieurs cas de mauvaise gestion de l'argent du contribuable. Par exemple, une association qui obtient un mandat de 50 000 francs pour développer un projet et ensuite déposer une demande de subvention alors qu'aucun besoin n'avait été exprimé par le canton. Autre situation, l'État de Genève a aussi lancé un appel d'offres pour lancer un appel d'offres sans vérifier si ce travail pouvait être réalisé par l'administration. Des cas surprenants alors que le cadre légal existe. La Cour des comptes estime qu'il est parfois contourné. Un exemple, des règles spécifiques existent pour les mandats externes de plus de 150 000 francs. Eh bien, les magistrats ont découvert des cas de saucissonnage où des mandats similaires sont accordés à une même entreprise, alors que d'après la Cour, ils auraient dû être regroupés et faire donc l'objet d'un appel d'offres public. 10 recommandations ont été adressées au Conseil d'État, mais 7 ont été refusées sans explication. Et ça, c'est très inhabituel.
Et alors, comment expliquer cette position du gouvernement genevois?
Alors le Conseil d'État genevois tient une conférence de presse en ce moment même pour réagir à un audit qu'il juge orienté. Il craint une bureaucratisation aveugle et estime que des projets d'amélioration sont déjà en cours. Et surtout, il souligne le fait qu'aucun cas de malversation, d'enrichissement ou de fraude n'a été découvert par la Cour des comptes.
Julien Schiffel en direct de Genève. Vous en faites peut-être partie. Les pendulaires ont dû changer leurs habitudes ce matin avec le nouvel horaire des CFF en vigueur depuis hier. Plus de trains, mais des changements d'heure de départ dans toute la Suisse romande. Tout s'est bien passé pour l'heure de pointe. Le système est bien en place selon les CFF. Mais qu'en disent les usagers? Juliette Janet en a rencontré en gare de Renan, une gare qui est désormais un centre névralgique.
Ça change parce que j'habite à Renan et du coup je peux prendre des ICN plus facilement. J'ai pas besoin d'aller à Lausanne pour aller à Genève, à Berne, donc c'est un grand plus pour moi.
Vous venez d'où ?
De Neuchâtel, je vais à Genève. Donc avant il y avait un direct et puis maintenant on doit faire le changement à Renan. De base mon trajet est assez long, donc là de me rajouter 10 minutes en plus à l'aller et au retour, oui ça m'impacte quand même.
Et pour certaines familles, ce nouvel horaire des CFF est synonyme d'importants changements d'organisation. Certaines écoles ont dû adapter leurs horaires. C'est le cas à Apple et dans les communes voisines. Nicolas Rosset a rencontré des familles pour qui la journée commence désormais un peu plus tôt.
30 secondes d'arrêt. Sonia, bonjour, ça va bien?
Les enfants sont partis 15 minutes plus tôt pour l'école ce matin à Apple.
C'était dur ce matin?
Oui, parce qu'on devait se lever très très tôt.
Changement d'horaire, il aurait fallu penser à avancer le réveil.
On n'a pas encore réglé, du coup c'est mes parents qui vont me réveiller.
Tu vas dormir en classe?
Probablement, si on a histoire et géo.
Certains relativisent. Dans la commune voisine de Chania, les horaires sont avancés d'une heure.
À 15 minutes, c'est un changement de petites habitudes, alors faut prendre des nouveaux repères, mais bon, à 15 minutes, ça va. J'imagine que nos voisins là-bas qui ont une heure de différence à Chania, le choc a dû être un peu plus grand, oui.
Les responsables de ces levées plus matinaux, les MBC, Transport Public de Morges-Bière-Cossonay, Pierre-Alain Pérenne, directeur des MBC.
Les horaires des trains CFF à Morges changent et notre volonté, c'est de s'adapter, de permettre à nos trains et nos bus d'être en correspondance avec ces trains.
Mais se lever plus tôt, ce n'est peut-être pas si grave.
Il y a déjà le lever du soleil.
C'est joli ?
Oui.
Rendez-vous en décembre 2025 pour un changement d'horaire qui s'annonce plus calme.
Le reportage signé Nicolas Rosset. Quel salaire l'an prochain? Le bilan des négociations salariales pour 2025 est qualifié de mitigé par Travail Suisse qui représente des dizaines de fédérations d'employés. Certaines branches ont obtenu des hausses de salaire satisfaisantes, mais pour la fêtière, les augmentations salariales restent globalement insuffisantes. Virginie Langeroc.
Les représentants des employés dressent en effet un bilan en demi-teinte. Certains secteurs, l'artisanat et les transports publics par exemple, ont obtenu de quoi maintenir leur pouvoir d'achat. La construction a obtenu une hausse de salaire de 1,4%, mais au prix de négociations tendues. Jusqu'ici, les employeurs ajustaient sans sourciller les salaires à l'inflation. Cette année, rien d'automatique. Chaque hausse, assure Travail Suisse, a été âprement négociée. Alors, l'inflation devrait baisser cette année, mais c'est sans compter la forte hausse des primes maladie, plus 8% cette année, après avoir pris 6% l'an passé. Conséquence, le salaire réel a baissé. Le salaire réel, c'est ce qu'on peut s'offrir avec son salaire compte tenu des prix actuels. Il reste inférieur à celui de 2021. De nombreux employés auront donc moins d'argent en poche l'an prochain. C'est surtout le cas aussi pour les secteurs de la santé, le commerce de détail et la restauration hôtellerie qui cumulent depuis 3 ans un manque de réajustement salarial, ce qui fait dire à Travail Suisse que malgré la croissance, de nombreux employés voient leur pouvoir d'achat diminuer.
Vos explications Virginie Langeroc, merci. Il faudra des jours et des jours avant de connaître le nombre de victimes à Mayotte. Déclaration ce matin de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur démissionnaire à son arrivée sur l'archipel. Un archipel ravagé samedi par le passage du cyclone Chido. Des centaines, voire des milliers de personnes ont certainement été tuées selon le préfet de l'archipel. Ariane Aster, vous êtes à Paris. Il faut dire que Mayotte, dans l'océan Indien, c'est le département le plus pauvre de France et cette fragilité a des conséquences multiples.
Oui, elle explique déjà le bilan potentiellement très lourd. On estime qu'un tiers des 320 000 habitants recensés vit dans des bidonvilles surpeuplées. Une partie d'entre eux était restée dans leur cabane de tôle, ne croyant pas que les vents seraient si forts. Une grande partie aussi des habitants est en situation irrégulière à Mayotte. On estime qu'ils seraient 100 000. Des personnes sans papier qui auraient hésité avant de se rendre dans des centres de secours, pensant que les autorités leur tendaient un piège. Sur place, tous les systèmes sont déjà fragile, système routier, système de communication. L'approvisionnement en eau potable était déjà compliqué, pareil pour l'électricité, et le cyclone a tout balayé. Une situation qui complique la tâche des secours qui ont peu de temps pour sauver celles et ceux qui seraient encore sous les décombres. Par ailleurs, l'hôpital a été très endommagé, les centres médicaux seraient inopérants. Le tout avec des craintes et des témoignages déjà de scènes de pillage. Un pont aérien et maritime est déployé depuis la Réunion pour envoyer du matériel et des personnes médicaux et de secours. Des sapeurs-pompiers et des réservistes ont également été envoyés depuis Paris.
Et Ariane, ce cyclone est passé en pleine crise politique en France.
Oui, avec un gouvernement démissionnaire, un nouveau Premier ministre qui consulte pour constituer son équipe gouvernementale et qui se retrouve déjà face à ce qui se profile comme une catastrophe. Une réunion de crise sur Mayotte est prévue ce soir à 18h autour d'Emmanuel Macron.
Ariane Asler en direct de Paris. Et puis toujours en France, c'est un procès retentissant qui touche à sa fin, celui des viols de Mazan. Après avoir donné une dernière fois la parole aux 51 accusés, la cour s'est retirée en milieu de matinée pour délibérer. Le verdict est attendu jeudi. Israël cherche à étendre ses frontières avec le projet visant à doubler la population du Golan annexé. Affirmation ce matin du ministère turc des Affaires étrangères qui condamne la décision de l'État hébreu. Décision également condamnée par l'Allemagne il y a quelques minutes. Hier, le gouvernement israélien a approuvé un projet en ce sens, tout en disant n'avoir aucun intérêt à entrer en conflit avec la Syrie. La Syrie, où des milliers de familles reviennent après la chute de Bachar al-Assad. Beaucoup vivaient dans des camps de déplacés à Idlib, au nord-ouest du pays, et de leur quartier. De leur maison, il ne reste très souvent plus rien. Reportage sur place, signé Céline Martelet.
Pour entrer dans le quartier de Raldiyeh à Homs, il faut encore slalomer entre les décombres. C'est peut-être la rue de ma maison, je n'en suis pas certaine, je n'arrive rien à reconnaître.
Assise à l'avant de sa voiture, Sarah revient pour la première fois chez elle, dans cette maison où elle a grandi. Sur le palier, elle s'effondre dans les bras de sa mère. Juste à côté des deux femmes, Samir, le père, leur demande de rester forte. Les escaliers qui mènent au premier étage de leur maison semblent prêts à s'effondrer.
Voici ma maison.
À l'intérieur, tout est dévasté.
Je dormais ici avec ma sœur, mais elle est loin. Elle est en Hollande. Mon lit était ici. Il y a comme un gros trou dans le mur, mais je ne sais pas ce qui s'est passé.
Les hommes de Bachar al-Assad se sont acharnés sur les murs, le sol. Ils ont tout pris, même les fils électriques.
J'ai l'impression qu'ils ont pris la vie de cette maison. Ils ont volé mes souvenirs. Je vais revenir ici à Homs. C'est ma maison. Je suis née ici. C'est là que j'ai des souvenirs avec mes frères et mes sœurs. Là que j'ai passé mon enfance. Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas réussi à avoir la victoire finale.
Des décombres, la mère de Sarah sort quelques photos recouvertes de poussière.
C'est mon frère. Il est joueur de foot, il vit aux États-Unis.
Ces photos, c'est tout ce qui lui reste de son passé dans cette maison.
Le reportage de Céline Martel est réalisé en collaboration avec Noé Pignade. Les crampons sont rangés, les joueurs sont en vacances. La Super League de football vient d'entamer sa traditionnelle trêve hivernale. La dernière journée avant Noël a eu lieu ce week-end. Après 18 journées, Lausanne est troisième à un petit point du leader Lugano. Servette est juste derrière, cinquième, Sion pas très loin. Le classement est très serré. Alors les Romands ont-ils une chance de titre cette saison? On en parle avec vous, Alexandre Comisetti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant RTS, ancien international helvétique et ancien joueur du Lausanne Sport. Si vous deviez parier aujourd'hui, vous miseriez peut-être sur un titre roman?
Ouais, absolument, j'ai l'impression. Enfin, sentiment premier, c'est justement après ces deux premiers tours, c'est de se dire qu'il n'y a pas vraiment une équipe qui sort la tête de l'eau, qui est meilleure que les autres. C'est vrai que les Romands ont fait globalement un bon premier tour avec... voilà, des intermittences. Hein. Lausanne est peut-être l'équipe qui aujourd'hui est montée vraiment crescendo dans le championnat. Servette a été un peu plus intermittent, mais assure quand même une qualité de jeu intéressante. Et le FC Sion avec une certaine sérénité. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir des romans une projection, on peut dire que finalement des romans joueront le titre cette année.
Alexandre Comisetti, une petite devinette. Vous savez à quand remonte le dernier titre roman?
Je vais vous dire, moi, mes fils hier soir m'ont dit, c'est la première fois, ils ont 22 et 24 ans, c'est la première fois que le LS termine à Noël sur le podium. Donc, ils n'ont jamais connu ça. Donc, je ne peux pas vous dire exactement, est-ce que c'était 99
Servette? C'était 99, effectivement, Servette, qui avait obtenu le titre lors de la dernière journée à la Pontaise face à Lausanne. Ça rappelle peut-être certains souvenirs à nos auditeurs. Comment vous expliquez ce retour aux avant-postes des Romands? Est-ce que c'est le travail qui paye? C'est leur mérite? Ou alors plutôt les ténors habituels? On pense à IB, à Bâle, qui sont peut-être moins dominateurs.
Ouais, je pense que c'est la conjonction des deux. C'est vrai que cette année, le FC Bâle, IB sont un peu plus en difficulté, ce qui a permis au club romand finalement d'être en tête aujourd'hui. Après, il y a aussi du travail qui était fait. C'est vrai que faut regarder l'historique des 20 dernières années et personnaliser peut-être à chaque club. C'est vrai que l'histoire du Servette de Lausanne avec des faillites, etc., a rendu la tâche difficile. Une reconstruction globale, une reconstruction qui a passé le FC Sion aussi, hein, avec une descente l'année passée, une reconstruction globale, une réflexion aussi, se dire on va tâcher aussi de mettre en avant le centre de formation, ce que Servette, Lausanne, Sion font très bien, trouver des solutions finalement et trouver une certaine sérénité. Je pense que là, aujourd'hui, en s'appuyant sur une vraie qualité de jeu, je trouve que ces trois clubs ont une vraie qualité de jeu sous le terrain, raison pour laquelle finalement les points tombent parce que ils assurent ils donnent du plaisir, ils assurent une certaine qualité.
Alors, un dernier mot, Alexandre Comisetti, la trêve, c'est aussi le mercato. Il faut espérer que les clubs se renforcent ou ils devront surtout essayer de ne pas perdre des joueurs importants?
Non, mais quand un club va bien, je ne vois pas la raison pour laquelle il devrait y avoir des modifications. Après, on ne sait jamais. Vous savez, les marchés, ils peuvent devenir relativement fous. Alors, on verra. J'espère que les trois clubs réussiront à garder dans leur effectif, notamment, je pense que vous faites référence à Koutessa du côté de Servette, certainement Alvin Sanchez du côté de Lausanne. Voilà, c'est des joueurs qui doivent bien réfléchir à ce qu'ils feront. Ils ne sont pas les deux dans la même situation. Voilà, il y a un très jeune joueur, un Koutessa qui, lui, ben, voilà, après des expériences à l'étranger, a réussi à se relancer. Il faudra voir. Je pense que l'urgence des clubs à Noël, des fois, peut mettre en difficulté les joueurs qui finalement y vont. Il n'y a pas de préparation. Voilà, la réflexion de leur côté devrait être réelle. Et puis espérons que les clubs soient assez persuasifs pour leur dire que vivre une belle expérience dans son club formateur ou dans un club dans lequel on a beaucoup d'attaches, c'est aussi quelque chose d'exceptionnel. Ça n'arrive pas tout le temps. Donc j'espère que les joueurs auront cette réflexion aussi.
On verra. Alexandre Comizetti, consultant RTS Sport, ancien international suisse et ancien joueur de Lausanne Sport. Merci d'être passé un instant dans 12:30 et une bonne suite de journée à vous.
Merci, pareil.
Et on se rend à présent à Berne où le Parlement débat cet après-midi de sexisme. Après le feu vert du national, le Conseil des États doit décider si le sexisme doit être pénalisé comme l'homophobie depuis 2020. Mais justement, 4 ans plus tard, est-ce que l'inscription de l'homophobie dans le code pénal a eu des effets concrets? Écoutez ce qu'en dit Gaë Colussi, responsable de Pink Cross en Suisse romande.
Oui, ça a changé des choses. Ça a deux effets toujours. C'est qu'il y a un effet préventif, notamment sur le discours public. Et puis, il y a quand même eu quelques condamnations, dont une jusqu'au tribunal fédéral, qui de nouveau montre qu'il y a une application de cet article de loi.
Est-ce qu'on peut dire que du côté des personnes qui subissent ces agressions, il y a aussi une libération de la parole?
Alors, je pense que ça, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que l'article de loi porte vraiment sur le discours public et donc, en fait, ne va pas s'appliquer aux discriminations interpersonnelles. Donc, on voit que au niveau des crimes de haine, progressivement, les personnes les signalent de plus en plus, mais on touche encore une fraction des actes qui sont commis.
Des propos recueillis par Salomé Laurent. Ils estiment que la Suisse est menacée par un diktat écologique qui met en péril notre mode de vie. Les opposants à l'initiative pour la responsabilité environnementale en votation le 9 février ont lancé leur campagne aujourd'hui à Berne. Une alliance composée de partis de droite et du centre dénonce un texte irresponsable. Marielle Savoie, qu'est-ce que ces opposants reprochent concrètement à cette initiative lancée par les Jeunes Verts?
De nous forcer à réduire drastiquement notre consommation dans un délai déraisonnable. Pour rappel, le texte demande à l'économie de ne plus utiliser des ressources ou émettre des polluants au-delà de ce qui est supportable pour la planète et de nous adapter dans un délai de 10 ans. Pour les opposants, cela conduira inévitablement à une forte hausse des prix. Simone de Montmelin, conseillère nationale PLR Genevoise.
Prenez l'agriculture par exemple, ça voudrait dire réduire drastiquement les moyens de production, ça veut dire produire beaucoup moins sur la même surface. Quand on produit moins sur la même surface, il se passe quoi à la fin? Les prix augmentent. Donc vous aurez le même mécanisme inflationniste dans tous les domaines de production qui devraient se restreindre quant aux moyens qu'ils auront à disposition pour produire à des prix concurrentiels.
Selon les opposants, cela reviendrait à sacrifier notre prospérité, mais aussi notre modèle social tout entier, car l'État se verrait obligé d'édicter des règles strictes pour limiter les importations ou encore restreindre les voyages, par exemple.
Et l'Alliance des partis bourgeois estime aussi que le texte est inutile.
Oui, parce que le principe de responsabilité environnementale est déjà inscrit dans la Constitution fédérale. La Suisse est d'ailleurs une bonne élève à l'échelle internationale puisqu'elle a réduit son impact de plus de 25% depuis le début des années 2000, rappellent les opposants. Alors que les Jeunes Verts réclament un changement fondamental de notre système économique, le camp du non, lui, appelle à maintenir la recette actuelle et à rendre la Suisse plus écologique en prenant des mesures ciblées secteur par secteur.
Marielle Savoie en direct de Berne. La fin d'année et la période des fêtes, c'est souvent propice aux dons, vous en prévoyez peut-être, mais la générosité a tendance à baisser selon les chiffres de la fondation ZEWO qui labellise les organisations d'utilité publique. Les dons ont diminué de 250 millions de francs en un an, une tendance qu'Alain Boll observe, lui qui dirige le centre social protestant de Genève. Écoutez comment il l'explique.
Il y a la situation économique à laquelle sont confrontées les personnes qui nous soutiennent. Pour une partie, en tout cas, c'est certainement à prendre en compte. L'autre partie, c'est toujours la même chose. C'est une grosse sollicitation. Je faisais le compte dans ma boîte aux lettres la semaine dernière. C'est pas moins de 10 enveloppes différentes de différentes organisations que j'ai reçues. Donc, comment faire un choix? Quel lien j'entretiens avec ces entités? Le CSP est construit. Sa recherche de fonds autour de slogans. Cette année, c'est la précarité a un visage, la solidarité aussi. Ce qu'on cherche aussi, c'est chaque fois à toucher les personnes sur des thématiques différentes. Le dernier appel a été construit autour des questions d'accompagnement, de réinsertion professionnelle et de soutien aux personnes dans différentes situations sociales et juridiques.
Voilà, c'était des propos recueillis par Pietro Bugnon ce matin dans notre matinale. La SSR annonce l'arrêt prochain de la FM pour ses programmes. C'est pour le 1er janvier, il faudra passer à une autre technologie, le DAB+. Bonjour Pascal Wassmer.
Bonjour.
Alors quand on pense à nos habitudes d'écoute, on pense streaming, podcast, radio traditionnelle, nos habitudes sont en pleine mutation, mais quand même Pascal, la FM qui disparaît, c'est la fin d'une époque, non ?
Oui, absolument, hein. Mais c'est pas une surprise, hein. C'est l'aboutissement d'une révolution plutôt silencieuse dans notre façon d'écouter de l'audio, d'écouter de la radio. Tenez, un chiffre marquant aujourd'hui, plus d'un quart de l'écoute radio se fait déjà en ligne en Europe. Prenez une journée type, avant on allumait son poste FM le matin, aujourd'hui les auditeurs passent du streaming musical le matin à un podcast dans les transports, puis à la radio en direct sur le smartphone au bureau. Tout est devenu très fluide. La voiture est toujours le lieu privilégié pour écouter la radio, mais c'est à la maison qu'on l'écoute le plus longtemps.
Et est-ce qu'on écoute toujours autant d'audio ?
Oui, nous passons en moyenne 3h08 par jour à écouter de l'audio. Selon une étude de l'UER, l'Union Européenne des Radio-Télévisions, le streaming musical représente désormais 42% du total devant la radio traditionnelle. Les jeunes auditeurs sont massivement passés au numérique. 77% des 18-29 ans utilisent leur smartphone pour écouter du contenu audio. Les podcasts, eux, explosent avec des revenus publicitaires qui ont atteint 213 millions d'euros en 2023.
Et qu'est-ce que ça change concrètement pour les auditeurs ?
Le grand changement, c'est la liberté de choix. Vous n'êtes plus limité à une position géographique ou à une heure de diffusion. Vous pouvez écouter ce que vous voulez, quand vous voulez. Avec le smartphone, c'est l'arrivée d'une sorte de radio à la demande.
Mais ça veut dire que la radio traditionnelle est menacée, Pascal ?
Non, elle se réinvente. Le temps d'écoute reste relativement stable en Europe. La radio garde des points forts, l'information en direct, la proximité, la découverte musicale. Mais elle s'adapte donc à ces nouveaux usages en développant ses propres plateformes numériques.
Et pour l'avenir, alors, quelle tendance se dessine ?
Alors, la grande tendance, c'est la diversification des usages. 2/3 des médias de services publics sont maintenant présents, par exemple, sur Apple Podcast ou Spotify. Parmi les tendances plus émergentes chez les plus jeunes, il y a la consommation de musique dans l'univers des jeux vidéo. Par exemple, des concerts de vrais artistes dans le jeu Fortnite. Autre pratique surprenante, les vidéos de podcasts. C'est la grande mode chez les jeunes Américains. Ils consomment des podcasts, mais sur YouTube. On se dirige donc vers une sorte de radio hybride qui va mêler direct et replay, contenu généraliste et personnalisé.
Merci Pascal Wassmer, nos habitudes de consommation audio. Et la SSR qui quitte la FM, on vous en parlera aussi ce soir à 18h dans Forum.
Le 12h30, Guillaume Rey.
Notre invité est pianiste, compositeur, mais aussi performeur, on le verra, et il joue ça. Bonjour Alain Roche.
Bonjour.
C'est votre nouvel album qu'on entend, il sort ce samedi, il s'appelle Summer Solstice. Summer Solstice, après Winter Solstice, sorti il y a une année, expliquez-nous la démarche.
En fait c'est un projet, j'avais envie de confronter une œuvre pianistique qui allait vivre une lente transformation. Donc j'ai fait un projet à Munich qui s'appelait Solstice to Solstice. Et je suis arrivé le premier jour avec une composition qui s'appelait Winter Solstice. Et chaque jour, j'ai réécrit une bout de cette partie, de cette partition, pour la transformer totalement. Et du coup, on a au tout début un album qui s'appelle Winter Solstice. Et à la toute fin, le 20 juin, on a interprété la dernière œuvre qui s'appelait Summer Solstice, qui donne naissance à cet album aujourd'hui.
Summer Solstice, qui est donc une évolution en quelque sorte. Alors Alain Roche, ce qui vous caractérise, c'est vos performances au piano. On va y revenir, mais le piano vertical durant la cérémonie de clôture des JO de Paris, c'était vous. Et là, ce samedi, vous lancez aussi une série de concerts de piano solo. Elle passera par La Chaux-de-Fonds, Sion, Yverdon ou encore La Sarre. Elle s'appelle Blue Hour. Et la particularité, c'est qu'il faudra se lever tôt pour vous entendre, c'est juste.
Oui, c'est ça. En fait, mes projets sont très, très souvent pendant l'heure bleue du matin, c'est-à-dire pendant que la nuit se fait pousser par le jour, en fait. C'est exactement quand le soleil est à moins 10 degrés en dessous de l'horizon jusqu'à quand il atteint les moins 3 degrés.
Est-ce un moment qui vous inspire particulièrement?
Moi, je trouve que c'est quelque chose de fabuleux parce que c'est chaque seconde, chaque millième de seconde, c'est différent. C'est vraiment une transformation qui change tout le temps. Et du coup, les ciels sont incroyables. Et puis, là, je trouve que c'est quelque chose qui m'émeut et puis que j'ai envie de transmettre au public.
Alors, ce sera une tournée de concerts de piano acoustique, cette fois à même le sol, hein, ça mérite d'être précisé. Un piano au sol, Alain Roche, parce que je le disais, durant la cérémonie de clôture des JO, vous avez marqué les esprits avec votre piano vertical dans les airs, en s'y replonge. Vous avez donc joué l'hymne à Apollon, suspendu dans le Stade de France, habillé par un autre Suisse, hein, au passage, le Valaisan Kevin Germanier. Tout ça devant 80 000 personnes dans le stade. Beaucoup de monde, on l'imagine, derrière leur écran. Quel souvenir vous en gardez?
Ah, c'est quelque chose de fabuleux, de fou, en fait. C'est une sorte d'énergie incroyable qu'on vivra certainement une fois dans sa vie. Mais c'est beaucoup d'énergie, en fait. C'est vraiment quelque chose d'incroyable.
Alors, cette performance ne sort pas de nulle part, hein. Vous aviez déjà fait 182 concerts de suite le matin à l'aube, vous en parliez tout à l'heure. Là encore, suspendu à votre piano vertical, pour vous, la musique ne va pas sans la performance ?
Si, bien sûr, mais ce que j'essaye, justement parce que je suis touché par des instants de transformation, je trouve que mettre un piano à la verticale pour, au bout du compte, faire voir le ciel au spectateur, c'est quelque chose qui m'est venu comme une évidence et que j'ai voulu défendre.
Et ça change quoi de jouer au piano suspendu à la verticale?
Alors déjà, on a l'impression d'être avec les oiseaux, parce qu'on est à peu près souvent dans les mêmes hauteurs, et du coup, il y a quelque chose on doit réapprendre la pesanteur, on doit réapprendre beaucoup de choses, mais par contre, on a l'impression d'être... Enfin, moi, ça m'apprend à être dans l'instant présent, puisqu'on est en plein air, on est au gré du vent, au gré de la météo.
Alors, la performance, vous diriez que c'est peut-être un moyen d'attirer un public différent, à quelque part, des gens peut-être moins initiés aussi, une manière de vulgariser le piano?
Peut-être, c'est pas le but en soi, mais évidemment, je pense que ça favorise cet acte-là. Par contre, c'est simplement de lier le quotidien, c'est-à-dire le ciel, bêtement, avec la musique. Et puis, parce que je fais de la musique, et du coup, j'ai voulu mettre ces deux éléments ensemble, et je pense que ça, du coup, c'est accessible.
Alors la suite, on l'a dit, Alain Roche, c'est ce nouvel album qui sort samedi, Summer Solstice. Je vous propose qu'on écoute un dernier petit extrait. Tout à l'heure, hein, qu'on est vraiment sur une évolution avec Summer Solstice. Comment vous la caractériseriez, cette évolution, en quelques mots?
Alors, en fait, c'est que chaque jour, j'ai réécrit des petites parties de la pièce d'origine. Donc, ce qui fait, c'est que des fois, il y a une sorte de narration qui est enrichie des aventures que j'ai vécues sous la neige, sous la pluie, sous le beau temps, à 4 heures du matin, 3 heures du matin, avec du public qui m'écoutait. Donc c'est nourri de plein de petits éléments, comme des petites particules qui s'enchaînent, en fait.
Merci Alain Roche d'être passé dans ce 12-30. On rappelle donc que votre nouvel album Summer Solstice qui sort ce samedi, et le même jour vous lancez une tournée de concerts à l'aube, samedi à La Chaux-de-Fonds, dimanche à Sion, puis on relève encore des escales en janvier à Yverdon ou à Martigny. Puis on précise, Alain Roche, qu'il sera possible de vous entendre plus longuement ce soir sur RTS Première, puisque vous serez dans Le Grand Soir. Une bonne suite de journée à vous.
Merci à vous aussi.
Et nous on passe à la météo. Temps bien ensoleillé aujourd'hui, hormis peut-être sur le nord de l'arc jurassien et le Jura, où la journée sera souvent nuageuse, maximum 6 degrés. Pour demain, banc de brouillard probable le matin sur le plateau, sinon temps assez ensoleillé malgré un ciel parfois très voilé. Maximum 3 à 7 degrés en fonction de l'ensoleillement.
La vie à peu près. Florence Grivel.
Saxophoniste de jazz genevois, estampillé ECM Records, photographe aussi qui signe parfois de ses images à ses albums, Nicolas Masson est l'invité de La vie à peu près cette semaine. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, soyez les bienvenus. Sous la plume bien inspirée du journaliste Arnaud Robert, on pouvait lire en 2018 ces quelques lignes qui posent notre saxophoniste. Comme chaque mardi, Nicolas Masson ira enseigner à l'AMR de Genève, Association pour l'encouragement de la musique improvisée, jusque tard dans la nuit. Pour quelqu'un qui a appris le transsibérien, qui a vécu dans une HLM new-yorkaise où l'avant-garde du jazz bataillait contre le vent, pour quelqu'un qui a fait des limites sa substance, on pourrait croire que les petites habitudes d'un père de famille et d'un professeur de musique finiraient par l'étouffer. Nicolas Masson, comme le prouvent ses compositions d'une discrète intensité, extrait de tout réel la part incompressible de mystère. Alors dans cette première rencontre d'aujourd'hui, il s'agira de passer par les grands parcs nationaux américains que Nicolas Masson, enfant, va photographier déjà, une pratique qu'il poursuit toujours et qui infuse ses projets musicaux. On le verra d'abord guitare en main, puis ce sera un nouvel an à Montreux où il voit jouer le groupe Fishbone, ska, metal, reggae, avec la vision d'un saxophone sur scène. Eh bien oui, coup de foudre immédiat pour cet instrument. Et nous passerons aussi par le disque de Sidney Bechet qu'écoutait la grand-mère de Nicolas Masson. Ce premier épisode est intitulé « Du métal au free jazz » et c'est Agnès Léveillé qui nous y embarque.
Bonjour Nicolas Masson.
Bonjour.
Alors on est chez vous, dans votre appartement à Genève, avec une vue magnifique sur les arbres. Où est-ce qu'on est à Genève ?
Alors on est en fait tout au bout du quartier de Plainpalais, tout proche de l'hôpital. Juste à côté de l'Arve aussi, donc juste à la frontière de la ville de Carouge. Et voilà, effectivement, on a une jolie vue avec des arbres et puis le Jura qui a blanchi ces derniers jours.
Est-ce que c'est un endroit où qui vous inspire pour vous qui êtes musicien, saxophoniste et photographe? Est-ce que cette vue, peut-être les détails, là on voit encore des anciennes villas, il y a à la fois le côté très industriel urbain avec les toits de l'hôpital qu'on voit, la verdure, l'eau qu'on devine, les montagnes, est-ce que c'est inspirant pour vous?
Oui, surtout d'avoir de la lumière en fait, c'est vraiment important pour moi, je suis vraiment très sensible à ça, donc on a la chance d'avoir beaucoup de lumière de ce côté. Derrière, pas tellement, ça donne sur une petite forêt, mais ça a son charme aussi, parce qu'il y a des familles de renards, des blaireaux, une chouette. Et la forêt devient très belle quand il neige de temps en temps. Et donc oui, c'est effectivement un lieu que j'aime bien, qui est juste en fait... on est en ville vraiment, il y a ce côté urbain, mais on est quand même proche de la nature aussi. On peut très vite aller au bord de l'Arve. Je vais souvent courir au bord de l'Arve d'ailleurs.
Et on est très vite aussi dans la forêt, si
oui,
on suit l'Arve.
Oui.
Là, dans votre appartement, alors le côté musical, il y a un clavier, il y a un Rhodes pour mm-hmm. nous. Voilà, ça c'est la musique enfin, qui apparaît au premier plan. Et puis, il y a aussi quelques portraits, quelques photographies que vous avez faites. Notamment, on va évidemment en parler beaucoup, quelqu'un qui est très lié à l'AMR, ce grand centre de jazz genevois. Et je vois en face de nous Claude Tabarini, mm-hmm. batteur.
Voilà, batteur, poète, photographe. Voilà, une personne... assez hors du commun, en fait, que je fréquente assez régulièrement. J'aime bien aller chez lui dans sa petite maison à l'île aux 13 pour improviser. On improvise toujours, on joue pas de composition, quoi que ce soit, on joue simplement. C'est toujours des moments spéciaux. Sa maison est incroyable, c'est une sorte d'îlot à l'intérieur de l'île aux 13. Et c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a collectionné les livres et les disques. Et chez lui, c'est rempli de ses livres et ses disques. Et il y a un côté un peu presque Diogène comme ça, mais en fait, c'est pas le cas. C'est juste un passionné. On peut prendre n'importe quel livre, n'importe quel disque, qui va pouvoir nous dire exactement de quoi il s'agit, de quoi ça parle, ce que c'est, avec qui joue. Il est incroyable. Il a une culture vraiment incroyable.
Et sur cette photo, on dirait presque que c'est un jeune homme, le voyant un peu de loin. Sur cette photo, vous l'avez capté dans un...
Oui, en fait, c'était une surprise. On avait joué à la Villa du Toit en trio avec le contrebassiste Vincent Ruiz. Et on a fait beaucoup de sessions chez lui. Avant ça, il avait toujours une immense barbe. Et puis le jour de ce concert, je ne sais pas s'il voulait se faire beau spécialement pour l'occasion... Mais il s'est rasé la barbe, il a mis une cravate et voilà, on attendait, on s'était installé, on attendait de jouer. Puis j'ai fait cette photo pendant qu'il fumait sa cigarette. Là.
Et puis à côté de lui, il y a deux photos qui pourraient presque provenir de, je ne sais pas, de livres, peut-être d'archives, enfin de livres édités dans les années 50, 60, mm-hmm. avec le grain papier un peu vieilli, un peu grisé. Mm-hmm. Et il s'agit de deux personnes aussi tout à fait contemporaines, Nicolas Masson.
Voilà, absolument. En fait, c'est la dernière page du Vive la Musica.
Le journal de
l'AMR. Et c'était peut-être 2018, je ne m'en rappelle plus, en fait. Voilà, j'ai eu envie de faire une série de portraits de gens de l'AMR. Cette série s'appelle « Gens de l'AMR ». Effectivement, c'est un peu intemporel, mais c'était aussi le projet. J'avais envie de documenter les gens qui font l'association à une période où il y avait vraiment trois générations qui se côtoyaient. Les anciens, Tabarini notamment, et d'autres personnes qui sont là dès le début de l'association. Aussi, j'ai voulu documenter ça parce que certains sont partis à la retraite, on les voit plus beaucoup, certains sont décédés. Après, il y a la génération intermédiaire qui est la mienne, et puis la jeune génération. Donc, j'avais vraiment envie de montrer tout ça. Et aussi parce que j'ai toujours été fasciné par la diversité de personnalités qui fréquentent ce bâtiment. Et pour cette série, j'ai choisi aussi de travailler en argentique, de pas utiliser de lumière artificielle. C'est la lumière naturelle qu'on voit dans la coursive, l'escalier, l'extension qui avait été faite au début des années 2000. Donc c'est vraiment juste lumière naturelle et juste un réflecteur. Et j'avais envie de ça aussi dans le procédé, de montrer le côté intemporel de cette association qui existe depuis 50 ans maintenant et qui a changé, mais qui est finalement toujours la même, qui est un peu d'une autre époque, mais qui est bien dans notre temps en même temps, à la fois par la musique qui est proposée, mais aussi les discussions sociétales et autres. Donc voilà.
Suivre et révéler les traces quelque part, Nicolas Masson, je crois que c'est quelque chose qui traverse tout votre travail finalement de créateur aussi bien de photographe que de musicien, improvisateur et interprète. La trace, ça vous parle ?
Oui, je pense que je suis intéressé par le cheminement dans tous les sens du terme. J'aime cheminer dans le sens du voyage, de la route. J'aime marcher en montagne aussi. Mais c'est vrai que j'ai toujours été intéressé par le parcours des gens. J'avais un prof d'histoire du jazz au conservatoire quand j'étais étudiant qui me disait « Mais c'est marrant, tu t'intéresses plus à la vie des musiciens qu'à leur musique. » C'était pas que je m'y intéressais plus, mais la musique, j'avais un peu plus facilement accès. Ce qui me fascinait, c'était le mystère de qu'est-ce qui fait que cette musique s'exprime de cette façon-là. Qui est cette personne qui a créé cette musique? Qu'est-ce qui a mené à ça? Alors c'est vrai que la trace m'intéresse et me fascine, et par extension, ça peut aussi s'appliquer à une association comme l'AMR.
Vous disiez que votre musique est vraiment intimement liée aussi à votre vie, mm-hmm. à ce que vous faites, ce que vous traversez, à vos voyages évidemment, vos rencontres, d'où peut-être effectivement déjà votre intérêt quand vous étiez jeune étudiant mm-hmm. pour la vie de ces immenses monuments du jazz. Qu'est-ce qu'il y a du saxophone dans cette pièce? Pour l'instant, je...
Ah oui, ils sont bien cachés, mes saxophones, c'est pour ça. Non, mais comme je vis dans un appartement avec une voisine qui est pas toujours très aimable, je peux pas jouer à la maison. Alors, quand je suis à la maison, mes saxophones sont bien rangés. Je vais travailler ailleurs, mon instrument. Donc ici, effectivement, de ce qu'on voit de mon train de musicien, c'est plutôt... Mon Rhodes, et puis depuis peu j'ai un petit synthétiseur avec lequel je m'amuse un peu et voilà, et mon petit bureau avec mon ordinateur et tout ça.
Est-ce que quand vous aviez commencé à faire de la musique, vous aviez un environnement à peu près semblable à celui-là, déjà rempli d'instruments, pas forcément de saxophones, de photos, de livres?
Oui, j'étais assez vite, je pense, entouré de ça. Une fois de plus, c'est le chemin est intéressant, mais ce n'est pas toujours facile non plus de remonter le fil et puis se dire qu'est-ce que j'ai fait à telle période, qu'est-ce qui a été décisif. Je me rappelle de ma chambre d'adolescent, effectivement, avec au mur beaucoup de photos, de cartes postales que j'achetais au musée de l'Élysée, que j'aimais bien afficher dans ma chambre. Et puis, effectivement, il me restait toujours une guitare de l'époque où j'étais guitariste, quand j'étais enfant et jeune adolescent. Il y a toujours une guitare qui se cache là-bas derrière.
Derrière les plantes.
Et puis mes saxophones et clarinettes. J'ai toujours vécu entouré de tout ça, oui.
Le musée de l'Élysée, qui est le musée de la photographie à Lausanne. Mm-hmm. Par contre, vous avez grandi à Genève. Vous êtes né, vous êtes vraiment genevois, Nicolas Masson.
Oui, j'ai grandi à Schaenbourg. Voilà. Oui,
vous êtes né en 1972.
Voilà.
Vous avez grandi à Schaenbourg, vous mm-hmm. avez commencé à faire de la guitare, je crois.
Oui, j'ai commencé la guitare quand je devais avoir vers 8 ans, quelque chose comme ça.
Pour faire du rock ou du jazz ?
Pour faire du métal. Non, au tout début, je pense que c'était plus, effectivement, quand j'avais 8 ans, je n'avais pas encore découvert le métal. C'était, je pense, plutôt le rock, ouais, que j'aimais bien. Bah, j'écoutais soit les disques qui étaient à la maison, qui étaient les disques de ma mère... Il y avait ce disque de Bob Dylan qui s'appelle Desire, qui fait toujours partie de mes disques préférés. Et voilà, je sais pas exactement pourquoi j'ai choisi la guitare tout de suite. Mais voilà, après, quand j'avais, je pense, vers 10, 11 ans, j'ai commencé à découvrir des groupes de métal un petit peu. J'ai commencé à découvrir Black Sabbath, et après je me suis intéressé à Iron Maiden et tout ça, ce qui a mené assez vite... au speed metal avec Slayer. Et voilà, on était très fans avec mon ami de très longue date, Sylvain Fournier, qui est batteur et percussionniste. Enfin, on s'est rencontrés à l'école quand on avait 4 ans. Et puis, on a évolué ensemble et on s'est passionnés ensemble pour le metal à peu près à la fin de l'école primaire, vers la 5e, 6e de l'époque.
Et à ce même moment aussi, donc, il y a la guitare, il y a cette passion pour l'environnement du métal, mm-hmm. pour les figures, j'imagine aussi le style, l'attitude, non le,
oui, oui, bien sûr.
Tout l'imaginaire et l'imagerie qui uh-huh. m'entoure. Le skateboard aussi arrive
oui,
un
mais
peu
j'ai
plus
fait...
tard aussi.
Non, je fais du skate depuis très jeune, en fait.
Aussi, au
parce qu'il y a eu plusieurs vagues, en fait, de mode du skate. Et il y en avait une, je pense, quand j'étais vraiment assez petit. Je m'en rappelle très jeune. Il y avait à Schaenbourg, il y avait des usines Bechler qui faisaient de la blanchisserie. Et quand ça s'est terminé, ils ont construit un skate park. Là-bas, je me rappelle que j'y allais quand j'étais vraiment petit. Mais pareil, je devais avoir 7-8 ans. Et puis, le skate est revenu un peu plus tard, dans mon adolescence, effectivement, avec d'autres musiques aussi. C'était plutôt l'époque des Red Hot Chili Peppers, des groupes plus comme ça, qui étaient plus... C'était plus le métal à ce moment-là. Mais quand même, ça a commencé avec... Il y a quand même quelques groupes de métal comme Anthrax, qui étaient proches des milieux du skate aussi.
Donc, il y a peut-être comme ça un attrait pour les États-Unis assez fort entre ces groupes, le skate, est-ce que voilà.
Oui, je pense que c'était l'époque aussi où les États-Unis faisaient rêver, peut-être moins maintenant et encore moins aujourd'hui. Mais c'est
vous
vrai.
Vous faisiez
que...
rêver, vous vous souvenez, enfant?
En fait, mes parents ont vécu aux États-Unis pendant presque 3 ans, je crois, avant ma naissance, à la fin des années 60. Ils ont vécu à Philadelphie, donc j'ai été élevé quand même avec cette image un peu merveilleuse que ma mère me racontait des États-Unis, de la vie à Philadelphie à la fin des années 60. Voilà, avec tout ce que ça avait représenté d'ouverture pour elle, qui avait grandi ici, même elle avait grandi à Chancy, donc...
Donc la campagne.
La campagne, c'était vraiment la campagne à l'époque. Donc elle avait toujours gardé un souvenir incroyable de son expérience aux États-Unis. Donc j'étais un peu aussi élevé dans cette image qui faisait rêver.
Qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier, vos parents ?
Mon père avait été envoyé par Citroën, parce qu'à un temps, Citroën a cherché à s'implanter aux États-Unis. Ça n'a pas marché du tout. Mais en tout cas, il était là-bas comme mécanicien. Et puis, ma mère a fait différents jobs, je crois, là-bas. Elle était prof de français, elle a fait du secrétariat, elle a fait différentes choses. Puis à un moment donné, je pense qu'ils ont eu envie, il y a plusieurs choses qui ont fait qu'ils ont eu envie de rentrer, notamment l'envie de famille. Et puis c'était, ils ont envie d'être proches de, surtout ma mère, je pense, proche de sa famille. Et puis c'est aussi la guerre du Vietnam. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais apparemment, ils appelaient en priorité les immigrants qui avaient des cartes vertes pour aller au front, au Vietnam. Donc je crois qu'il y avait ce choix-là aussi, c'est soit vous gardez votre carte verte et vous allez au Vietnam, soit vous rentrez chez vous. Donc, je sais pas, c'est peut-être une information à vérifier, mais il me semble que c'est ce qu'on m'avait raconté quand j'étais enfant. Donc voilà.
En tout cas, voilà, vous avez grandi effectivement avec aussi cet imaginaire américain raconté par votre mère.
Voilà.
Vous avez fait ensuite avec elle un voyage aux États-Unis quand vous étiez, enfant.
Oui, on était allé d'abord... quand mes parents étaient encore ensemble, quand j'avais 4 ans, on est retourné parce que... Ils voulaient retourner voir leurs amis. Donc, on est surtout allé justement à Philadelphie. On était descendu jusqu'en Floride, je me rappelle. Donc, ça, c'était déjà un voyage qui m'avait beaucoup marqué parce que c'était aussi le bicentenaire, en fait, de l'indépendance. Donc, c'était en 1976, on allait là-bas.
Et vous avez des souvenirs de vous à 4
ans ? J'ai des souvenirs des défilés, des camions de pompiers. Enfin, voilà, j'avais 4 ans, quoi, de manger du lobster, de...
Le
homard. Oui. J'ai des souvenirs de tout petit, mais j'ai beaucoup de souvenirs de ça. Je me rappelle on était en région où il y avait des Amish. Je me rappelle de ça un peu aussi. Voilà, c'est des souvenirs de tout petit. Et puis par la suite, avec ma mère, tous les deux, on est retournés quand je devais avoir vers 10 ans. Et là, on avait fait un grand voyage sur la côte ouest. Elle avait loué une voiture. Elle avait son permis depuis très peu de temps. Et puis elle a loué une voiture et on a fait un grand tour de la côte ouest. Et voilà, c'est un beau souvenir aussi.
Avec les premières photos à ce moment-là aussi, Nicolas Masson.
Oui, c'est vrai que c'est un peu né là, en fait, mon envie de faire des photos. Ben, une fois, voilà, j'avais 10 ans, donc c'était les choses que je remarquais à l'époque. Je pense que j'étais impressionné par les grosses voitures américaines, surtout les voitures customisées. Enfin, une fois de plus, avec Sylvain, on avait cette passion de petit garçon pour les magazines de voitures customisées. Donc, j'en faisais des photos là-bas. Mais aussi, beaucoup déjà de la nature, en fait. Je me rappelle avoir aimé faire des photos dans les parcs nationaux, à Yellowstone, à Yosemite. Ouais, c'est vrai que c'est à l'occasion de ce voyage-là que je me rappelle avoir commencé à avoir un moment du plaisir à faire des photos.
Vous aviez 10 ans.
Ouais, à peu près, je pense. Ouais. Ouais, je pensais ça, 10-11 ans, ouais.
10-11 ans, skater, voilà, fasciné par ces envies déjà peut-être d'ailleurs, enfin en tout cas de quelque chose de très exotique qui venait des États-Unis. Pour vous, l'Asie est venue, votre intérêt pour l'Asie est venu un peu plus tard.
Oui, oui.
La musique, donc la guitare, et pas du tout de jazz encore. Donc Bob Dylan par les vinyles de votre mère aussi.
Ouais. Et pas que, Otis Redding beaucoup, Aretha Franklin beaucoup.
Voilà, enfin, les grandes voix américaines de la soul.
Et
vraiment les musiques improvisées et le jazz, est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous avez commencé à vous y intéresser, Nicolas Masson ?
C'est venu plus tard. Ma grand-mère aimait bien écouter Sidney Bechet. Je m'appelle le week-end, surtout, quand j'étais chez eux, à la montagne, à Caux, au-dessus de Montreux. Alors, ça, c'était peut-être mon premier contact avec le jazz. C'était ces disques de Sidney Bechet qu'elle écoutait. Mais après, c'est des enchaînements un peu, on ne sait jamais trop. Je me rappelle, en fait, être allé à une soirée de Nouvel An à Montreux. Et il y avait ce groupe qui s'appelait les Fishbones qui jouait. C'est difficile à définir, c'est un mélange de ska, de métal et un peu de reggae. Ouais, voilà. Et difficile à définir, en tout cas, ils existent toujours, je pense. Et là, en fait, c'est la première fois, plus ou moins, que j'ai vu un saxophone sur scène, parce que le chanteur jouait aussi du saxophone ténor. Et puis, j'avais été très attiré par l'instrument. Et à l'époque, je jouais encore que de la guitare. Mais je pense que c'est suite à ça que j'ai eu envie d'essayer le saxophone. J'en ai loué un. Et c'était un coup de foudre immédiat, comme je ne l'avais en fait jamais eu, même avec la guitare.
Qu'est-ce que vous avez ressenti et qui vous manquait peut-être dans votre rapport à la guitare ?
Je ne sais pas, c'est un peu difficile à décrire parce que la guitare, c'est toujours un instrument que j'adore. J'adore les musiques avec guitare. Mais j'ai jamais eu cette sensation physique, ce plaisir physique à l'instrument, de la même façon que je l'ai eu avec le saxophone dès que je l'ai essayer, en fait. C'est assez indescriptible. C'est vraiment une sensation physique, en fait.
Et à ce moment-là, est-ce que vous prenez des cours ou bien vous, vous êtes autodidacte?
Non, j'ai commencé en autodidacte.
En soufflant, en essayant.
Ouais, bah, je regardais les photos. c'est là que je ne sais pas trop comment ça s'est fait, parce que je me rappelle regarder les photos de John Coltrane. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai sauté directement de Fishbone et de Bécher à Coltrane. Mais je me rappelle regarder les photos, puis de regarder. Je ne savais même pas, quand je suis allé chercher l'instrument, je ne savais pas comment il fallait l'assembler, je n'avais aucune idée. Et puis, comment il fallait le prendre en l'embouchure, etc. Je me rappelle regarder des photos. Voilà, c'est de tâtonner. Donc, j'avais vraiment pas de sous. Donc, je n'ai pas pris de cours pendant quelques temps. Peut-être un an, deux ans. Je sais pas exactement. Mais je sais juste que j'ai, ça m'a passionné tout de suite et j'ai tout de suite passé beaucoup de temps tous les jours sur l'instrument. Ce que j'avais jamais vraiment fait sur la guitare.
Parce qu'aujourd'hui, évidemment, il y a les tutos. On peut se former assez facilement, en tout cas pour les débuts, à un instrument, n'importe lequel d'ailleurs, en regardant des tutos de cours de musiciens sur YouTube.
Oui, oui.
Effectivement, prendre un instrument avant et commencer seul, c'est encore une autre paire de hanches, pas de manches, mais de hanches. Donc vous faites vos premiers tâtonnements et ensuite arrive assez rapidement l'AMR. Enfin, vous découvrez qu'il y a un lieu à Genève où jouent des saxophonistes, notamment peut-être des personnalités qui vont vous inspirer aussi.
Oui, en fait, je pense que ce qui m'a vraiment mené sur ce monde du jazz et la musique improvisée, je le dois à cette grand-mère qui écoutait Sidney Bechet, parce qu'elle travaillait pour les services sociaux de la ville de Montreux. Et puis à travers son travail, on lui donnait des billets gratuits pour le festival de jazz de Montreux. Puis j'étais très très souvent chez mes grands-parents à Caux, là où vivait Claude Nobs d'ailleurs, tout près. Et elle m'a donné des billets. Je crois que c'était valable pour n'importe quelle soirée. Puis dans le petit journal local qui s'appelait La Riviera, je crois, à l'époque, c'était marqué World Saxophone Quartet, les meilleurs saxophonistes du monde. Et moi, je débutais, j'avais juste loué le saxophone. Puis j'avais vu que c'était un programme. Il faisait une tournée après l'album qui s'appelait Rhythm and Blues, je pense.
Donc c'est un collectif qui s'est formé à la fin des années
70. Ouais. Donc eux, ils sont vraiment issus du jazz libertaire, mais ils avaient fait cet album qui était autour de la musique de Otis Redding et du Rhythm and Blues. Et moi, ça me parlait parce que j'avais ces disques-là, ces vinyles que j'avais récoltés de ma mère. Donc je suis allé voir ce concert et puis là, c'était un choc, en fait. Vraiment, j'ai trouvé ça incroyable, fascinant, et tout de suite je suis allé emprunter tout ce que je pouvais de disques à la discothèque de Vieux-Seux et des Minoteries ici à Genève. Et ça m'a passionné immédiatement et je me suis acheté un dictionnaire du jazz. J'ai essayé de
reconstruire.
De voir d'où il venait, quelles étaient les influences, et de fil en aiguille, je me suis fait un peu une culture comme ça, enfin en tout cas un début de culture dans le jazz et la musique improvisée.
Mais vous jouez à l'époque encore seul, vous ne jouez pas encore avec des groupes?
Non, je jouais seul, j'avais des expériences de jouer en groupe un petit peu à la guitare, justement en faisant du métal avec Sylvain Fournier.
Vos enregistrements.
Mais je crois que ça existe. Sylvain m'a dit qu'il avait retrouvé une cassette, parce qu'on faisait des trucs nous-mêmes dans ma chambre, mais je n'avais pas encore de guitare électrique, c'était avec ma guitare classique. J'aimerais bien réécouter ça, il ne me l'a pas donné encore, mais je me rappelle juste moi je branchais dans la chaîne IFI un micro que je mettais devant la guitare classique en fait, et puis on hurlait, puis on faisait un bruit pas possible avec cet instrument. Je ne sais même pas ce qui nous passait par la tête, parce que ça ne correspondait pas au truc qu'on écoutait encore, mais bref, et après on a fait du métal, donc oui, mais ces expériences de jouer avec des gens, c'était limité à ça. Donc effectivement, je jouais seul au début de mon instrument, et puis une fois de plus, je sais pas exactement comment, j'ai entendu parler de l'AMR et qu'on pouvait jouer en groupe, et je me suis présenté à l'audition, au test d'entrée pour faire les ateliers.
Il y avait des tests d'entrée encore, tiens.
Oui, c'était à la salle de concert. Il y en a toujours d'ailleurs, mais ça se passe juste avec un prof dans une salle maintenant, juste pour pouvoir constituer les ateliers qui a un niveau qui soit compatible avec les autres personnes. Mais là, c'était à la salle de concert. On savait qu'on avait quelques morceaux à préparer. Et puis, à l'époque, ça faisait pas longtemps que je jouais. En fait, ça faisait un an et demi, je crois. Et puis, j'étais à fond dans le free jazz. J'aimais Albert Ayler, j'aimais ces trucs-là. Puis, je ne sais plus ce qu'il fallait jouer. Il fallait jouer des standards, peut-être Solar. Je pense qu'il y avait ça, l'un ou l'autre, je ne sais plus. Et je me rappelle avoir... Il y avait une section rythmique et jouer enfin, comme ce que j'imaginais être Albert Ayler, ou jouer complètement free là-dessus. Mais je pense que ça avait dû faire un peu une impression de voir ce gamin. Je sais pas, j'avais 16 ans à l'époque, ou je sais pas quoi, faire ça un peu sans filtre, comme ça me fait presque honte d'y repenser. Maintenant, j'oserais jamais faire ça aujourd'hui, je pense. Mais bref, voilà, j'ai été pris dans les ateliers. C'était un atelier avec Olivier Magnona, et
contrebassiste.
Puis contrebassiste qui est hélas décédé assez tôt, il y a quelques années. Et puis, ben voilà, j'ai fait une ou deux répétitions dans son atelier. Et puis, il m'a dit, bon, ben, clairement, t'as pas le niveau, en fait, de cet atelier pour jouer. Mais j'ai envie de te donner ta chance. Je pense que si tu bosses, tu peux, voilà, te mettre à niveau. Et puis, te trouver ta place dans l'atelier. Et puis, moi, ça m'a vraiment motivé, effectivement. À m'accrocher, c'est d'apprendre à lire un peu, parce que je lisais très mal et je connaissais rien de toute façon.
Des accords.
Voilà, exactement. Ouais.
Nicolas Masson, on arrive déjà à la fin de notre première rencontre. Qu'est-ce que vous nous suggérez comme musique pour refermer ce premier entretien ? On a parlé du World Saxophone Quartet, on a parlé d'Olivier Magnona, d'Albert Ayler, d'Iron Maiden.
Oui. Pourquoi pas écouter un extrait de cet album du World Saxophone Quartet ? Ça peut être une bonne idée. Ça fait des années que je n'ai pas écouté ça. Je n'ai plus en tête les titres de l'album, mais on va choisir ça.
On va sortir les albums et on va regarder. Merci voilà. Beaucoup Nicolas Masson, à demain.
Merci, à demain. We'll be right back.
du World Saxophone Quartet, tiré de l'album Rhythm and Blues. Musique qui rappelle d'excellents souvenirs à Nicolas Masson. C'est son choix musical. Et demain, nous irons d'est en ouest. C'est une rencontre menée par Agnès Éveillé. La vie à peu près, c'est une coproduction d'Agnès Éveillé et Florence Grivel, assistée d'Audrey Zano, réalisée par Gilles Ozaman. À demain! Belle suite de journée à vous sur Espace 2. Il est 14h.